Allô, allô, ici Antoine Guillot, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série d'émissions « Comment ça va le monde ?». Cette saison, on se pose la question de l'énergie, quelles problématiques, quelles conséquences, quelles implications dans notre vie quotidienne. Et je suis toujours en compagnie de Valentin Vinci, bonjour.
Bonjour Antoine.
On va poursuivre notre questionnement sur l'énergie aujourd'hui avec une première question qui est pourquoi l'énergie que l'on produit pose problème.
Déjà, on pourrait commencer par préciser le mot production qui n'est pas tout à fait adapté parce que l'énergie, on ne la produit pas nous en tant qu'être humain, on est plutôt apte à la collecter dans l'environnement. Elle est présente dans l'environnement et nous, on va créer des convertisseurs qui vont nous permettre de la collecter. Donc, l'écrasante majorité de l'énergie qu'on a à notre disposition, c'est directement ou indirectement de l'énergie solaire. Donc on a le rayonnement direct qui chauffe ou avec lequel on peut faire du photovoltaïque. Ce rayonnement, il va générer donc aussi le régime des pluies, hein, donc en alimentant le cycle de l'eau qu'on va pouvoir reconvertir nous en hydroélectricité. Il va alimenter le régime des vents qu'on va pouvoir éventuellement utiliser en éolienne et surtout il alimente la photosynthèse, donc c'est le soleil qui fait pousser les plantes, hein, c'est relativement connu, et ces plantes, on va pouvoir les manger et donc transformer tout ça en énergie. Et il y a les énergies fossiles, qui sont donc du produit de photosynthèse qui a eu lieu il y a des milliers, enfin plutôt des millions d'ailleurs, des millions, des dizaines de millions et des centaines de millions d'années, qui ont été enfouis dans le sous-sol et que l'on extrait aujourd'hui, que l'on va collecter aujourd'hui. Mais de tout ça, on n'a rien produit, on fait que le collecter.
Donc si je comprends bien, en fait, l'énergie, quand on parle de créer de l'énergie, c'est l'acte de transformation de quelque chose qui, en fait, existe déjà et qui est à notre disposition sur la planète. Que ce soit, comme tu le disais, de l'eau, des plantes ou quoi, quelle que soit la technique, ça ne nous appartient pas au départ. Quoi.
C'est parfaitement bien résumé, oui. Bon.
Si on se penche sur cette matière première justement dont on a besoin, mm-hmm. quelle que soit la méthode pour produire cette énergie.
Alors aujourd'hui, la grande majorité de l'énergie qu'on utilise, donc de l'énergie primaire qui est consommée dans le monde, 90% environ, ce sont des hydrocarbures fossiles.
Alors attends, je t'arrête tout de suite parce qu'il y a plusieurs termes dans cette phrase qui sont peut-être à préciser. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle énergie primaire ?
L'énergie, c'est de l'énergie primaire quand elle est telle qu'on la collecte dans la nature. Et après, on peut la transformer en une autre forme d'énergie. Et donc, par exemple, quand on prend une pelletée de charbon dans un sous-sol, dans une mine, c'est une pelletée d'énergie primaire. Si on la rentre dans un convertisseur qui est une centrale électrique au charbon, on va la transformer en électricité qui sera dans ce cas-là l'énergie finale.
Ouais. D'accord. L'autre terme là, dans cette phrase de 90%, tu le disais, de l'énergie primaire consommée dans le monde sont des hydrocarbures fossiles. Du coup, hydrocarbures fossiles, qu'est-ce que c'est ?
Hydrocarbures, c'est des composés chimiques, c'est-à-dire une famille de molécules qui va être composée de carbone et d'hydrogène. Et fossiles, ce qu'on entend par fossiles, c'est ces hydrocarbures qui sont présents dans le sous-sol et qui sont le résultat, comme je le disais tout à l'heure, du stockage de matière organique issue du vivant, donc qui s'est fait il y a des millions d'années. En totalité, c'est charbon, pétrole et gaz.
D'accord. Donc les trois principaux éléments, les trois principales matières premières qu'on utilise aujourd'hui pour notre énergie.
Si on prend le charbon, le pétrole et le gaz, ça fait 90% de l'énergie primaire qui est consommée par l'humanité aujourd'hui.
Alors évidemment, j'imagine qu'il y a des problèmes, notamment de ressources, de stock de ces énergies fossiles.
Oui, alors en fait, il y a plusieurs problèmes avec ces énergies fossiles, et donc tu as parlé du problème de stock. Donc comme on l'a dit, les énergies fossiles, les hydrocarbures fossiles, ils se sont formés il y a un certain temps. Le temps de formation et le temps auquel ils sont formés n'est plus accessible. C'est pas accessible à l'échelle d'une civilisation et éventuellement même à l'échelle de la vie d'une espèce. Donc on considère que les stocks d'hydrocarbures sont des stocks finis. On peut pas faire autrement que considérer comme ça.
Mais ça veut dire qu'un jour il n'y en aura plus ?
Alors c'est un stock qui ne se renouvelle pas et on peut pas vraiment dire qu'un jour il n'y en aura plus. historiquement, ils se sont développés parce que leur utilisation et leur extraction étaient simples. Et ça va devenir de plus en plus problématique. Le contenu énergétique de chaque pelletée de charbon, de chaque baril de pétrole, de chaque mètre cube de gaz va diminuer.
En fait, peut-être que ça nous coûtera plus qu'un baril de pétrole pour aller le chercher.
Voilà.
Donc il y a un déséquilibre.
C'est ce que j'ai appelé le contenu énergétique.
Et contenu énergétique, oui, du coup.
Et ben, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que à un moment, l'énergie qui est contenue dans un baril de pétrole sera insuffisante pour extraire un autre baril de pétrole, par exemple. Et donc, à ce moment-là, en fait, quand on va progresser vers ces problématiques-là, on va de fait contraindre la disponibilité de cette forme d'énergie, et elle redeviendra un jour, c'est sûr, marginale.
Mais quand ?
Ah, bah alors ça, on ne sait pas. On sait, la dernière fois qu'elle était marginale, c'était avant la révolution industrielle. On utilisait très très peu d'énergie fossile, d'hydrocarbures fossiles. Quand est-ce qu'elle va redevenir marginale? C'est impossible à dire. Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver.
Mais c'est impossible de dire quand, mais on a peut-être quand même une idée, savoir si ça va arriver dans les 5 ans ou s'il nous reste 70 ans.
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de passer le pic pétrolier. Donc le pic, c'est-à-dire le moment où on n'arrive plus à faire augmenter la production pétrolière. Donc ça, on est en train de le passer. Entre 2005 et 2025, on l'aura passé. Et en fait, ce dont on est sûr, c'est que ça va arriver.
Mais pourquoi, là, on est en train de le passer? Pourquoi cette période-là de passer un pic, qui a priori, c'est un point donné sur une courbe, enfin, c'est un moment, pourquoi c'est une période de 20 ans?
Bon, sur une courbe qui, on a commencé à extraire le pétrole il y a déjà un certain temps, donc sur une courbe qui s'étale sur presque une centaine d'années, le pic, il fait pas une journée, il fait plusieurs années, et donc en fait, on est sur un plateau, sur quelque chose qui ressemble plus à un plateau.
En fait, on se rendra compte qu'on a passé le pic une fois qu'on l'aura passé.
Voilà, c'est toujours comme ça.
Avec du recul.
C'est toujours comme ça, et en fait, quand on va se mettre à être contraint sur cette énergie, il va falloir changer notre structure de la façon dont la société est organisée, puisqu'on a vu que l'énergie organisait la société, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mmh. Et donc en fait, il y a deux solutions. Soit cette contrainte énergétique, on l'anticipe et on la gère en amont, on commence à y penser, soit alors on va la subir sans l'avoir vu.
Est-ce qu'on sait ce qui reste sous les sols d'Arabie Saoudite, du Venezuela, etc.?
En théorie, alors c'est pas ma spécialité, mais les pays producteurs de pétrole sont censés donner des informations sur leurs stocks. Ces informations sont modérément crédibles, on a une confiance modérée en ces informations, déjà parce que c'est pas forcément simple à faire, et puis parce que c'est des informations qui permettent de fixer le prix du pétrole, donc il n'est pas exclu que ces informations soient biaisé pour pouvoir contrôler le prix. Mmh. Mais ce qu'on sait, c'est que l'agence, il me semble que c'est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, a annoncé qu'on avait passé le pic de pétrole conventionnel était passé, me semble-t-il, en 2008, qu'on a passé des pics locaux, comme par exemple le pic de production de pétrole en Europe, puisqu'on produit du pétrole en Europe en mer du Nord. Qu'il a été passé en 2006 ou en 2005. Enfin, on est en train de passer les pics locaux et on va bientôt passer le pic global si ce n'est pas déjà fait.
Mmh. Mais donc en fait, on navigue à vue, dit comme ça, c'est presque affolant.
C'est effectivement très inquiétant, oui. C'est très inquiétant.
Et pour le moment, on ne peut pas dire que politiquement, il se passe quelque chose pour repenser, réorganiser la société avec cette donnée-là.
Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas comment répondre mieux que ça. Non, effectivement, on a l'impression que cette question-là n'est pas prise à bras le corps et qu'on est en train de continuer à, qu'on n'est pas en train de repenser la structure de repenser la façon dont l'énergie structure notre société aujourd'hui.
Alors, peut-être qu'on peut se pencher sur un exemple concret pour comprendre quelles conséquences peut avoir ce déséquilibre de contenu énergétique.
Joseph Tainter, qui est un anthropologue, a proposé en 2014 une lecture du développement et de la chute de l'Empire romain selon un angle de disponibilité de l'énergie. Alors, c'est assez intéressant. Et donc, à l'époque, la quasi-totalité de l'énergie qui était disponible, c'était de l'énergie solaire. Donc, on a déjà parlé de la photosynthèse, hein, donc c'est l'énergie solaire qui fait pousser les plantes.
Oui, parce qu'évidemment, à l'époque, on connaissait ni le charbon, ni le pétrole.
C'est pas qu'on les connaissait pas, c'est qu'on les exploitait, on savait pas les
On savait pas
exploiter
quoi en
pour,
faire.
voilà, on savait pas quoi en faire, on les exploitait pas dans des moteurs à combustion interne. Donc pour se déplacer, on avait un cheval à qui on donnait de l'avoine et qu'on avait fait pousser, enfin, plus probablement de l'herbe, etc., qui poussait. Et donc on exploitait uniquement la photosynthèse et l'énergie solaire. Voilà. Et donc, ça permettait de vivre, de travailler, on pouvait utiliser des animaux de trait. Et en fait, de ce travail, pouvaient mettre des objets, des biens durables, des stocks de nourriture, etc. Voilà. Et donc, selon Joseph Tainter, là, c'est pas du tout ma spécialité, l'histoire, hein, mais selon Joseph Tainter, l'Empire romain s'est développé essentiellement grâce au pillage et l'accaparement de ses ressources. Et en fait, ces ressources étaient assimilables à une forme d'énergie fossile, puisque par exemple, quand on a fait un objet en métal, c'est une forme de stockage de l'énergie, on en a déjà parlé, c'est l'énergie grise, une forme de stockage pour l'époque de l'énergie solaire. Et donc, l'Empire romain s'était développé essentiellement, enfin, avait basé son développement sur des pillages de ses ressources, mais qu'on ne peut récolter qu'une fois, puisqu'on ne peut piller un peuple qu'une fois. Et donc, on avait des ressources qui était assimilable à des ressources fossiles. Et il serait possible de lire la chute de l'Empire romain comme la conséquence de la baisse du contenu énergétique d'un pillage, c'est-à-dire qu'il faut aller de plus en plus loin pour piller des peuples, donc ça compte de plus en plus d'énergie pour déplacer les armées, donc le rendement de chaque pillage est moins bon, est moins important, le rendement de chaque pillage baisse, enfin le rendement
Oui,
du
parce
pillage.
que du coup, il faut aller plus loin, donc il faut nourrir plus longtemps les armées,
Il faut les déplacer
il faut les
plus.
déplacer,
Voilà.
etc. Et du coup, là-bas, on retrouve, au bout du monde, on trouve un petit village dans lequel, enfin, qui couvre même pas les dépenses en blé, etc., qu'il y a eu pour
Voilà.
déplacer l'armée jusque-là.
Et donc la décroissance du rendement des pillages est allée de pair avec la complexification de la société de l'Empire romain. Et donc au bout d'un moment, ça n'a plus été gérable. La dichotomie entre la baisse des rendements et la complexification de la société n'a plus été gérable. Et ça a été le début du déclin et de l'effondrement. Donc c'est une lecture par l'énergie et sa disponibilité de la chute et du développement de l'Empire romain.
Alors, on fait une petite pause musicale avec la maison près de la fontaine du vieux Nino, et puis on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir, avec les petites filles et les so société dure. Ce n'est pas si mal.
Voilà, merci à Nino pour cette chanson, ce petit intermède musical. Alors on revient à notre problématique, du coup, en quoi l'énergie qu'on produit, alors du coup qu'on produit pas tout à fait, mais qu'on collecte en tout cas, qu'on utilise, pose problème. Donc on a vu qu'il y avait un premier problème de ressources, de stock, que c'était un stock fini, donc à un moment il n'y en aura plus, en tout cas plus à disposition facile. Et le deuxième problème, c'est un problème de pollution.
Ouais. Donc, comme tu l'as dit, on a vu que 90% de ce qu'on utilisait, c'était des hydrocarbures fossiles, que ces hydrocarbures fossiles étaient en quantité finie, et en plus, quand on les utilise, enfin, quand on les collecte et quand on les utilise, il y a des problèmes de pollution. Alors, comme c'est comme quand on le collecte, en fait, c'est une extraction qui, de type, en général, minier, il y a toujours des conséquences locales. Quand on extrait des matières premières de cette façon, donc pollution des nappes phréatiques, pollution des eaux de ruissellement, etc. Bon, ça, c'est classique dans l'industrie minière. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas pour les hydrocarbures. Et ensuite, pour tirer de l'énergie de ces hydrocarbures, ce qu'on fait, c'est qu'on les brûle. Donc, on brûle du charbon dans des centrales à charbon, on brûle du pétrole dans nos voitures, dans les moteurs des bateaux, etc. Et généralement, pratiquement systématiquement, ça génère une pollution aux particules. C'est ce qu'on appelle les fameuses particules fines, qui est un terme générique qui englobe plein de pollutions de type physico-chimique, qui sont des pollutions locales, qui ont un impact sanitaire certain, on sait d'ailleurs mesurer, mais qui restent locales. Ça peut aussi générer des pluies acides, ce qui est aussi un problème, mais ce n'est pas un impact aussi systémique que le polluant dont on va parler maintenant et sur lequel on va un peu s'attarder.
Et en disant, peut-être sans s'attarder sur le problème, mais la pollution aux particules fines, c'est différent encore que le trou dans la couche d'ozone, qui est un terme qu'on entend de temps en temps.
Oui, alors on ne va pas s'attarder dessus parce que c'est très compliqué, et puis encore une fois, ce n'est pas ma spécialité.
Et ça ne concerne pas tout à fait ce qu'on est en train de traiter.
Voilà, donc le trou dans la couche d'ozone, les particules fines et le CO2 sur lequel on va se pencher, ce sont des problématiques différentes.
Donc avant de se pencher sur le CO2, on écoute un extrait, une archive de l'INA de 1979. Là, le bonhomme qu'on va entendre, c'est Aaron Taziev, qui est directeur de recherche au CNRS. C'est un extrait de l'émission Les dossiers de l'écran. On écoute ça et on se rappelle en écoutant que c'est en 1979 qu'est tenu ce discours.
Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes.
Non, 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités.
Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère, et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre.
Voilà, alors on a plusieurs termes intéressants là-dedans. Déjà, il parle déjà du CO2, il parle de l'industrie qui rejette ce CO2, et il a ce terme à la fin de cet extrait qui va rendre l'atmosphère comme une espèce de serre.
Oui, tout à fait. Alors, on va essayer d'aller un peu plus au fond des choses. Donc, quand on brûle les hydrocarbures, donc on a vu tout à l'heure que c'était des composés chimiques qui étaient composés de carbone et d'hydrogène, c'est des composés qui sont combustibles. Quand on y additionne un comburant, comme par exemple l'oxygène de l'air, et qu'on le brûle, on a une réaction donc, de combustion, et on crée du CO2 et de l'H2O. Donc ça va libérer de la chaleur, de la vapeur d'eau et du CO2. Avant qu'on se mette à utiliser massivement les énergies fossiles, il y avait déjà un peu de CO2 dans l'atmosphère, on précisera un peu plus tard les quantités. Il y avait déjà un peu de CO2 dans l'atmosphère et ça prenait part dans un cycle de carbone de surface. On va essayer de faire ça, mais en gros, il y a du CO2 dans l'air, les végétaux le captent lors de la photosynthèse, donc ils vont transformer le rayonnement solaire grâce à l'énergie apportée par le rayonnement solaire, du CO2 en matière organique, en feuilles, en troncs, en fruits, en sucre, etc. Il le transforme en matière solide, et cette matière solide, à la mort de la plante, va être soit décomposé par des bactéries, et donc être décomposé en CO2. Donc, c'était du CO2, c'est devenu de la matière solide et ça redevient du CO2.
Ou alors cette plante, ça repart dans l'atmosphère.
Donc ça repart dans l'atmosphère. Ou alors cette plante peut être mangée par un être vivant qui va l'utiliser et la brûler. C'est la respiration. Donc quand on respire, on respire de l'oxygène et on rejette du CO2. Et donc le CO2, c'est, pour faire très simple, enfin en schématisé, le produit de la réaction de combustion qui s'est passée à l'intérieur de notre corps et qui nous a permis de nous déplacer. Mmh. Et donc là encore, on rejette du CO2 qui reste dans le cycle. Donc, on a un cycle du carbone qui est fermé, avec une quantité de carbone de surface qui est globalement stable, et qui est dans trois parties du cycle, donc soit dans l'atmosphère, soit dans le monde végétal, soit dans le monde animal. Voilà. Et donc, cette quantité de CO2, elle est considérée comme stable à l'échelle d'une vie humaine ou à l'échelle d'une civilisation humaine. Donc ça, c'était avant qu'on brûle massivement des hydrocarbures, donc c'était avant la révolution industrielle, hein, pour faire très simple. Et quand on brûle du pétrole, du charbon ou du gaz, on introduit brutalement du CO2 par la réaction chimique dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est du CO2 qui avait été lentement retiré, on l'introduit brutalement alors qu'il avait été retiré lentement de l'atmosphère il y a des dizaines ou des centaines de millions d'années.
Et retiré lentement
sur des millions d'années. Quoi.
Voilà, sur des millions d'années, donc très très lentement. Enfin, c'est, à échelle humaine, c'est même pas concevable en fait.
Donc on va déséquilibrer la chimie de l'atmosphère. C'est un déséquilibre qui est violent et qui va avoir des actions violentes sur le système climatique. Et ça, ça va poser problème. Et donc, on avait dit qu'on donnerait les chiffres. On est passé, donc, avant la révolution industrielle, de 250 ppm de CO2 à 420 ppm. Donc,
ça, c'est quoi ça. PPM, qu'est-ce que c'est?
Alors, ppm, c'est partie par million. Donc, on connaît très bien le pourcentage, c'est une partie pour cent. On connaît le pour mille, c'est une partie pour mille. Et ppm, c'est une partie pour un million.
D'accord.
J'espère que c'est clair.
Oui, oui, c'est très clair. Peut-être, oui, enfin, je te laisse continuer, puis on écoute l'extrait.
Tout à fait. Voilà, donc c'est juste que c'est une augmentation qui est massive et les effets seront massifs.
Et qui est soudaine. Est-ce que on peut peut-être évoquer, en fait, ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène? La période dans laquelle on est rentré
Alors, la notion d'anthropocène est relativement controversée et certains disent qu'elle commence avant. Parce que l'homme aurait commencé à déstabiliser les systèmes. En fait, il a commencé à déstabiliser les systèmes
avec la déforestation,
la révolution industrielle, parce que c'est un super prédateur.
Oui, c'est toujours le gros méchant dans l'histoire. Oui. En parlant de gros méchant, on écoute cet extrait qui va tout à fait relancer la discussion suivante.
Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope, but I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act.
Alors voilà, bon, évidemment, on a reconnu Greta Thunberg qui parle là, donc c'est un discours qu'elle fait à Davos en Suisse en janvier 2019 au Forum économique mondial où, elle dit « je veux pas de votre espoir, je veux votre panique, quoi. Oui, je veux qu'on panique ensemble comme, et que vous soyez effrayés comme je le suis tous les matins en me levant. » Donc bon, Greta Thunberg qui est la figure de mouvement et de tout ce qui peut se passer en ce moment le monde, en France et dans le monde.
Pourquoi est-ce qu'elle veut qu'on panique?
Pourquoi est-ce qu'elle veut qu'on panique? Enfin, ce mot de panique, il est quand même très très fort.
Oui, alors il faut qu'on... Enfin, il n'est pas trop fort par rapport aux effets qu'on va avoir. Alors il faut comprendre que les effets, c'est très difficile de savoir exactement, précisément ce qui va se passer. Mais le climat va changer globalement. Ça va avoir des déclinaisons locales. Donc en fait, pour des raisons physico-chimiques qui sont aujourd'hui bien connues et bien expliquées, le CO2 va faire réchauffer l'atmosphère, va faire réchauffer le système planétaire, le système Terre. Et on va avoir donc des changements climatiques globaux qui vont se traduire en changements climatiques locaux très rapides. Et ça va laisser très peu de temps aux écosystèmes pour s'adapter. Et en fait, il y a beaucoup d'écosystèmes qui pourront tout simplement pas s'adapter. Il y a les forêts, ça se déplace pas. Les arbres, ça migre lentement vers le nord, sachant donc si les conditions pour leur vie ne sont plus là, et ben il y a des forêts qui vont disparaître.
Concrètement, on peut le voir par exemple.
Ça va brûler.
Ça va brûler, et puis même ne pas avoir le temps de s'adapter parce que ça change beaucoup trop vite à l'échelle de l'évolution des espèces. Sur les papillons, quand on a une trentaine d'années nous aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais petit dans le jardin chez mes parents, il y avait plein de papillons. Aujourd'hui, c'est très très rare d'en voir dans les jardins
Oui. Alors, typiquement, c'est pas encore forcément reliable au changement climatique, mais c'est exactement ce qu'on attend. C'est effectivement la disparition d'espèces et la perte de diversité d'écosystèmes. Mais va y avoir d'autres événements qui vont être un peu plus spectaculaires et qui sont un peu plus accessibles au sens, comme par exemple les événements climatiques extrêmes, des canicules qui vont être récurrentes, plus intenses, des sécheresses qui vont être récurrentes, plus intenses,
Les tornades en Corse qu'on a vu cet
des
été.
tornades, des cyclones, des typhons qui vont voir probablement leur intensité ou leur quantité augmenter, etc. On va avoir des baisses de rendement agricole et on commence déjà à le mesurer. Et ça, ce sera dû à l'affaiblissement des écosystèmes, puisque les rendements agricoles sont liés aux écosystèmes. Donc, si les écosystèmes s'affaiblissent, les rendements agricoles vont diminuer. Ce sera aussi lié à des événements extrêmes, parce qu'on fait beaucoup moins bien pousser des choses quand il y a la sécheresse, etc.
Quand tu dis qu'on l'a déjà vu, on est déjà en train de mesurer le rendement agricole qui diminue, ça veut dire que depuis quelques années, on se rend compte
On a
que
localement.
globalement, il y a une production agricole qui est plus difficile parce que dans des conditions plus difficiles. Mais ça veut dire qu'en fait, on y est déjà là. C'est pas
Ah
quelque
oui,
chose qui va arriver. On
on
est
y est
déjà dans
déjà.
le.
Alors, l'atmosphère s'est déjà réchauffée de environ 1 degré. Ça, c'est quelque chose qui est mesuré.
Depuis une centaine d'années, c'est ça?
Depuis les
Depuis.
températures de l'air pré-industriel. Et donc, dans ce 1 degré-là, il y en a au moins 0,9 qui sont imputables à l'action humaine.
Donc c'est quand même colossal. Et en sachant que 1 degré sur 100 ans, en fait, ça peut paraître pas si énorme, mais on l'a vu, il y a de vraies grosses conséquences parce que c'est pas normal. Et en plus, c'est un phénomène qui, a priori, enfin, a priori, je sais pas si mon a priori est juste, mais qui va s'accélérer.
Oui,
Puisque.
oui, oui. Enfin, c'est certain, puisqu'en fait, on augmente la quantité de CO2 qu'on relargue par an. C'est-à-dire qu'on en relargue toujours plus. Donc oui, ça va s'accélérer. C'est pas fini. Et dans les types de conséquences, parce que là, on a parlé des conséquences directes, mais aussi comme les régions seront déstabilisées, comme on va avoir des régions qui ne produiront plus de nourriture, on va avoir des flux de migration massifs. Et ça a déjà commencé. On peut déjà l'observer. C'est très bien documenté. Donc des migrations.
Parce que là, on parle, enfin, c'est pas un postulat idéologique, hein, ce que tu es en train de
Non,
dire là, on
ça
peut
c'est
le préciser.
documenté.
C'est documenté, c'est scientifique. Il y a des
Alors.
rapports scientifiques et de voilà des consensus qu'on appelle le consensus scientifique sur le
C'est.
sujet.
Les phénomènes de ce type des migrations sont multifactoriels systématiquement, mais on a déjà des migrations qui sont en partie reliables à des événements climatiques extrêmes ou à des sécheresses. Ou à des. Bah, ça, c'est déjà documenté. On a des régions qui ont été déstabilisées par ça. On a des événements de type émeute qui. Bah, c'est des choses qui sont déjà documentées. Et puis, on mettra des exemples de biblio sur carnetdart.com. Et donc, il y a aussi tout ce qu'on ne peut même pas imaginer comme conséquence. Parce que parce que quand on agit sur un système complexe de façon aussi massive, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper.
Même le meilleur des scientifiques, la
Ah oui.
meilleure des communautés scientifiques peut pas. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu,
C'est quelque
évidemment.
chose qu'on n'a jamais
Donc,
vécu, qui n'a pas d'équivalent historique à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'on sait reproduire l'histoire du climat sur des centaines de milliers d'années et on n'a pas d'exemple de réchauffement aussi rapide. Donc on est dans l'inconnu.
on est dans l'inconnu, alors que, comme tu le dis, on sait reproduire l'histoire du climat depuis des millions d'années, parce que la science est quand même très avancée là-dessus, mais par contre, elle est pas prédictive, ou alors à petite échelle et avec une marge d'erreur, quoi.
On a une idée de l'étendue des conséquences. On sait que ce sera massif, voilà. On ne sait pas exactement ce qui va se passer en premier. Ça, on ne peut pas le prédire, mais on sait que ce sera massif. Parce que ça ne peut pas être autrement.
Bon, alors ça peut paraître effrayant, ça peut faire peur. En fait, c'est pas que ça peut, ça l'est. Mais restez avec nous, on se retrouve le mois prochain pour le troisième épisode de notre série Comment ça va le monde sur l'énergie avec Valentin Vinci. Merci beaucoup. Vous retrouvez l'émission en podcast sur carnetdart.com et lacompagniecaravelle.fr. On se retrouve le mois prochain.
Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful.
20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités.
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day.